Ouvrez les yeux.
La série musicale.
Fermez vos yeux.
Matteo Caranta.
Man is not truly one, but two.
Metamorphose.
Listen to Django Reinhardt.
Metamorphosis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la série musicale. Vive la vie, cette semaine escale en métamorphose, ce pays imaginaire du mouvement, de la greffe, de la fusion, de la transplantation sonore et du métissage acoustique. Après avoir disséqué les péripéties de l'African Groove de Tony Allen hier, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur un objet total, une icône de la musique, un instrument qui connaît des dizaines de déclinaisons et dont on reconnaît facilement la forme et le son. Enfin presque toujours, un instrument qui incarne la métamorphose plus que n'importe quel autre, c'est celui qui se reproduit à l'infini. Mille fois aperçu dans le cinéma, il apparaît cubiste et déformé dans les peintures de Braque ou de Picasso. Il incarne la figure du bluesman, du rock et du voyageur. Pendant le confinement, ses ventes ont explosé à New York comme à Paris et celle de Kurt Cobain vient d'être vendue 6 millions de dollars aux enchères. Sans elle, pas de flamenco, c'est l'instrument de l'amour, mais on l'a fait pleurer. Beaucoup en ont parlé comme d'une amante et pourtant certains l'ont brûlée. On la frappe, on la gratte, on la pince, on la caresse, on la tord, on l'acoustique et on l'électrique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, Métamorphose, épisode 2, la guitare sous toutes ses formes. Un son saturé, une voix inimitable, c'est Jimi Hendrix, la grande divinité de la guitare qui fait pleuvoir des bombes acoustiques dans cette chose sauvage, Wild Thing, pendant un concert qui a changé d'un coup la manière de faire du blues, du rock, de la scène et de la guitare. Devant Jimi Hendrix, le public américain est médusé et ne sait pas vraiment quoi penser. Hendrix explose le niveau sonore, joue sur les réverbérations, métamorphose le son qu'il distord, explose la carte d'un monde inexploré. C'est une des histoires les plus connues et les plus racontées du blues et du rock. Nous sommes en 1967 au festival de Monterey. Simon & Garfunkel, Janis Joplin, Ken Heath, Lou Rawls, Jefferson Airplane et même Otis Redding, tout le monde est là. Mais il y a deux groupes venus d'Angleterre qui corsent le ton et surtout le volume du festival. D'un côté, The Who, mené par Pete Townshend. Leur son est gras et leur guitare pète comme autant de pots d'échappement. De l'autre, The Jimi Hendrix Experience, qui navigue aux frontières du réel. Ces deux-là se connaissent déjà de Londres, où ils suivent et se mesurent. C'est acquis mieux, et leur jeu de scène va toujours un peu plus loin. Alors, pour leur premier grand festival américain, ils se disputent la première place dans l'ordre de passage. On tire à pile ou face, Hendrix perd, mais annonce la couleur. Je vais mettre le paquet. Pete Townshend n'en attend pas moins, et comme c'est lui qui ouvre le bal, il donne tout sur son dernier titre. Entendez peut-être, il se passe quelque chose de bizarre sur scène. Le morceau n'est pas encore fini, mais le son chavire. Pete Townshend est en fait en train de fracasser sa guitare dans un mouvement qui va devenir sa signature, enfonce les amplis, détruit la batterie et fait exploser des bombes de fumée sur scène. Le public est ahuri par l'expérience rock et le succès est total. C'est au tour de Jimi Hendrix de monter sur scène. Dans ce live légendaire, il joue ses solos de guitare avec les dents ou avec les mains derrière le dos, comme s'il ne faisait plus qu'une avec lui une forme d'excroissance ou de transplantation. Surtout, Hendrix amène le vibrato de sa guitare électrique à des niveaux jamais entendus et dépasse le mur du son en jouant sur l'écho de sa guitare avec les amplis. À la fin du concert, après s'être frotté à elle, il pose sa guitare au sol alors qu'elle résonne encore et opère une ultime métamorphose physique et imaginaire. Il l'asperge d'essence et la brûle. La guitare, icône de la liberté, de l'expérimentation et de la résistance, est aussi devenue un objet de consommation à grande échelle. Et en regardant les images de ce qu'il décrit plus tard comme un sacrifice nécessaire, on se demande si Jimi Hendrix a brûlé sa guitare sur l'autel du blues ou sur celui de la guitare elle-même. L'histoire de la guitare est jalonnée de légendes, de premières fois, de grands noms, d'expérimentations et de découvertes. Certaines nous rapprochent de la métamorphose et de l'idée de passage à la croisée des chemins techniques, sonores et symboliques. Il y a dans le blues un mythe qui lui aussi s'est arrêté à un carrefour. Ce mythe, c'est celui du pacte avec le diable qui s'approche des bluesmen perdus dans les crossroads du Mississippi pour leur accorder leur guitare et leur apprendre à en jouer mieux que personne. Tommy Johnson serait le premier à en parler, mais c'est un autre bluesman, Robert Johnson, qui se l'est approprié et en a fait une chanson, Crossroads Blues, le blues de son pacte avec le diable, de sa transformation en joueur de légende. Je me suis rendu à un carrefour, la nuit tombait et j'ai attendu. Crossroads Blues, Robert Johnson. Crossroad Blues de Robert Johnson. Difficile d'imaginer le blues sans le son de ces guitares traînantes qui l'accompagnent. Comme ce fut le cas pour Robert Johnson et pour beaucoup d'autres bluesmen venant des zones agricoles pauvres du sud des États-Unis, les premières guitares de joueurs de blues ont rarement été des guitares proprement dites. En fait, on fabrique des instruments avec tout ce qui passe sous la main tant qu'on peut créer une résonance et tirer une corde. On trouve des basses faites à partir de grandes bassines de lessiveuses, des cruches pour mimer la trompette, des planches à laver pour la percussion. La métamorphose s'entend ici au premier degré, mais il y a un objet qui a plus de succès que d'autres, et c'est la boîte à cigares, vide, de préférence. À la fin du 19e siècle, ils sont vendus par 25, 50 ou 100 unités et contenus dans des boîtes en bois plus ou moins grandes et plus ou moins profondes. On confectionne avec des instruments parfois très sophistiqués qui comptent en général une ou deux cordes. Les cigar box guitares, en langue originale, apparaissent un peu partout dans le sud des États-Unis au tournant du siècle. Blind Willie Johnson raconte comment son père lui a fabriqué la sienne quand il avait 5 ans. De cet apprentissage s'est développée une technique de jeu unique, où il égrène des mélodies sur une seule corde. En voici un exemple frappant. Dark was the night, sombre était la nuit, and cold was the ground, froid était le sol. Blind Willie Johnson et sa boîte à cigares. Mm-hmm. De la guitare et de la voix de Blind Willie Johnson qui évoque le son de la Cigarbox guitare. Jouer de la musique à partir d'une planche à lessive, d'un manche à balai ou d'une râpe à fromage a abouti en Angleterre à un genre folklorique entre le country et le blues qu'on a appelé le skiffle. Le style prolifère dans les années 50 et on dit qu'à la fin de la décennie, le pays compte plusieurs milliers de groupes qui en jouent partout dans les rues. Certains de ces guitaristes aux instruments primitifs sont des stars en devenir, comme Van Morrison, Mick Jagger, des Rolling Stones, Jimmy Page, de Led Zeppelin, David Gilmour, des Pink Floyd ou les Quarrymen, dirigés par un certain John Lennon. Tous ont expérimenté ces instruments fabriqués avec deux bouts de ficelle. Et c'est peut-être une des particularités de la guitare. Elle peut simultanément exister sous sa forme la plus primaire et sous sa forme la plus sophistiquée sans que cela ne soit jamais contradictoire. À l'opposé du spectre de la Cigarbox Guitar, et parmi les dizaines de transfigurations que nous pourrions citer, on trouve la pédale Steel Guitar, qui vient elle aussi du blues. Imaginez une sorte de guitare meuble qui se joue avec une barre en acier, à l'origine un goulot de bouteille que l'on faisait glisser sur les cordes, et qui donne un son très particulier. On dirait qu'il est liquide à la frontière entre Hawaï et un doigt que l'on ferait glisser sur le bord d'un verre humide. Breathe, respire, nous disent les Pink Floyd. C'est l'été, vous êtes dans la série musicale avec le très expressif David Gilmour qui glisse sur sa pédale steel guitar.
How you fly, smile. tears you give and tears you cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards another grave.
Les derniers accords tumultueux de Breathe sur l'album mythique des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, la face obscure de la lune. Et si dans les années 50, 60 et 70, la guitare est cette icône qui incarne elle toute seule le rock, la pop, la célébrité, fait rêver toute une génération, elle a elle aussi eu une face cachée. Et c'est peut-être la plus intéressante de ces métamorphoses. La guitare est passée en moins d'un siècle du statut d'instrument mineur à cet objet de culte sacrifié sur la scène par Jimi Hendrix. Au 19e siècle, son manque d'amplitude sonore et sa fonction d'accompagnement en font une chose ingrate, tout juste bonne pour les sérénades amoureuses et les cafés populaires. Et pourtant, en Espagne, sous l'impulsion de quelques luthistes ingénieux et de compositeurs comme Julián Arcas, Fernando Sor ou Antonio de Torres, la guitare prend peu à peu la forme moderne qu'on lui connaît. On lui compose des études, des valses ou des boléros, et dans le document que vous allez entendre, on peut écouter un critique musical appelé Fétis et cité dans les mondes de la guitare de Florent Bousson s'extasier devant les prouesses du guitariste Fernando Sor. Mais au fond, il ne comprend vraiment pas pourquoi celui-ci persiste à vouloir jouer de la guitare. Nous sommes à Paris, aux environs de 1820.
Citer Monsieur Sor, c'est dire qu'on a entendu jouer de la guitare avec une perfection rare. Quel dommage qu'une tête si harmonique ait employé tant de talent et de patience à vaincre un instrument ingrat. De tous les instruments, la guitare est sans contredit le plus défavorable au développement des facultés physiques et morales de l'artiste. Monsieur Sor fait de très jolies choses sur la guitare, mais j'avoue que j'ai toujours regretté que cet artiste, dont l'organisation musicale est loin d'être ordinaire, n'emploie ses facultés sur un instrument qui offrirait plus de ressources. On reconnaît un artiste supérieur, mais je le répète, pourquoi joue-t-il de la guitare ?
Thank you.
L'Andante Largo opus 5, numéro 5 de Fernando Sor, qu'on entend ici interprété par la guitariste Ida Presti, n'est pas seulement un excellent compositeur et interprète le catalan, avec son compatriote Dioniso Aguado, immigré lui aussi à Paris, est un personnage clé dans les mutations de la représentation de la guitare. Il est l'un des premiers à lui donner ses lettres de noblesse en créant pour elle une grammaire et une méthode de jeu. Aguado, comme Sor, en font un instrument digne d'intérêt en débattant sur la bonne position à tenir. Ils invitent les lecteurs de leur manuel à se concentrer sur l'expression des sentiments et sur l'imagination. Des mains jeunes et robustes, nous dit Aguado, mélangées à de la sensibilité, entraîneront l'admiration du public par l'énergie des efforts produits. Les stars du rock ne sont pas loin. Grâce à eux, la guitare moderne peut entrer tête haute dans le XXe siècle. Et parmi ces grands noms de la guitare classique espagnole, il y a un autre incontournable. C'est Francisco Tárrega, qui donne à la guitare toute son expression mélodique. Les titres de ses morceaux sont imagés et s'inspirent de la culture arabo-andalouse, Souvenir de l'Alhambra et Caprice arabe.
La série musicale Matteo Caranta. Thank you.
unique de Paco de Lucía qui représente cette autre guitare espagnole, la flamenca, au son plus sec et cristallin. Le flamenco dont la racine arabe Fela Menkoub signifie le paysan démuni de tout et qui résonne comme un cri contenu au travers de la guitare. Mais si les joueuses et les joueurs de flamenco brillent par leur virtuosité et leur palette expressive, la guitare reste dans la musique populaire, comme dans les débuts du jazz, un instrument qui marque le rythme, qui fait la pompe, comme on dit, qui accompagne l'orchestre ou la clarinette. C'est dans les années 1920 que les cabarets parisiens voient arriver une nouvelle venue. Une guitare légèrement plus grosse et surtout avec des cordes en acier qui jouent plus fort et qui permettent à la main gauche, celle posée sur le manche, d'entreprendre des chorégraphies spectaculaires. L'invention plaît énormément et les premiers solos de guitare apparaissent dans les orchestres tziganes qui sillonnent les routes. À Paris toujours, Mario Maccaferri, un luthier d'origine italienne qui travaille dans les usines Selmer, met au point un modèle qui brille sous les doigts tordus d'un jeune manouche.
Listen to Django Reinhardt.
Vous étiez bien sur le nuage de Django Reinhardt, qu'on entend d'abord à la pompe, puis au solo. Django Reinhardt, c'est la légende de la guitare du jazz, toujours avec sa Selmer. Dans Accords et Désaccords, Woody Allen signe un faux documentaire où un guitariste de jazz se met à pleurer d'envie à chaque fois qu'il écoute à la radio. La métaphore est poussée, ou peut-être pas. Django Reinhardt change les règles du jeu et cette manière de jouer influence toute une génération et traverse l'Atlantique. À Oklahoma City, en 1935, Charlie Christian est le premier à prendre une guitare espagnole et à l'amplifier avec l'aide de son petit frère électricien. À l'époque, la guitare bat la pulsation aux côtés de basse et de la batterie dans les orchestres de jazz comme ceux de Count Basie ou de Benny Goodman. L'histoire raconte que Benny Goodman trouve Charlie Christian et son petit ampli installés avec son sextet lorsqu'il monte sur scène un soir de concert. Et pour ne pas faire mauvaise figure devant le public déjà installé, il lui aurait donné une chance sans commentaire. Le résultat fait l'effet d'une bombe dans le jazz, dans le swing et dans le blues. La guitare amplifiée lui permet de tenir des solos au même niveau que les saxophones ou les clarinettes, de faire entendre des nuances inédites. Charlie Christian est le dernier maillon d'une chaîne qui amène la guitare sur le devant de la scène. Charlie Christian, qui meurt très jeune, a chamboulé le monde de la guitare et son impact court sur les plus grands noms du jazz et du blues jusqu'à Jimi Hendrix que nous écoutions en début d'émission. Parmi eux et parmi elles, Mary Osborne, star de la guitare jazz dans les années 40. Interviewée dans Jazz Hot en 47, elle raconte qu'en entendant pour la première fois Charlie Christian à la radio, elle a d'abord cru entendre un saxophone ténor. Mais non, c'est bien une guitare. Mary Osborne s'en trouve une aussitôt et la rend plus vivante que jamais, comme ici dans ce magnifique « I Surrender, Dear ». L'intro sonne andalouse, le corps très bop et la fin est parfumée de blues.
Thank you.
jeu très chaud et nuancé de Mary Osborne dans I Surrender Dear. L'histoire des métamorphoses de la guitare est pleine de grands noms, de luthiers visionnaires comme Les Paul, nous avons cité quelques-uns seulement, mais elle est aussi remplie de géants anonymes, de simples amateurs qui, sans toujours le savoir, ont créé de nouveaux cadres de jeu, de nouveaux territoires à explorer. C'est le cas d'un cardiologue romain qui invente, ou plutôt perfectionne, une technique qui en est alors à ses balbutiements. Cette technique, c'est le tapping, dont le principe consiste à faire sonner les notes de manière percussive en tapant dessus avec les doigts. En tapant avec les deux mains sur la guitare, on peut donc jouer deux voix sur une seule guitare. Mais Vittorio Camardese dépasse l'entendement. Dans l'archive qui va suivre, le dottore est invité sur la RAI, la télévision italienne, en 1965. Camardese est plutôt du genre fluet et timide, sa voix est douce et retenue. Pour venir montrer ses talents à la télévision italienne, il a pris un jour de congé et emprunté une guitare à un ami. Avant de jouer, il explique qu'au lieu de pincer les cordes, il les percute. Inutile de dire qu'il est autodidacte.
Invece di pizzicare la corda, la percuoto.
Sentiamo una
sì,
un pezzo. Cosa
è? Un mambo.
Un mambo.
Un mambo, sì.
Incroyable, dit le journaliste, tout ce qu'on peut faire de nouveau avec du vieux. Camardese poursuit avec un standard de jazz All of Me pour montrer qu'il peut aussi rendre un effet de contrebasse pendant qu'il joue les harmonies ou la mélodie. À la fin de cette rencontre improbable, le présentateur lui dit espérer que sa nouvelle technique puisse parcourir le monde. « Ah non, ce serait trop », dit Camardese. Réponse de Frank Zappa, 10 ans plus tard, dans Pojama. Some people's high, some people's cold, some people's not very swift to be whole. Some people do it, some see right through it, some wear pajamas if only they knew it. Pajama people are boring me to pieces. Feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down them, a little trapdoor back around them, some cozy little footies on their mind. Pajama people, pajama people, they sure do make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. Mother Mary and Joseph,
I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you, save a dollar today. Pajama people, pajama people, people. Wrap them up, pull them out, get them out of my way.
Hey, get a hey, get a hey, get a hey.
Hoy, hoy, hoy.
Wrap them up, pull them out,
get them out of my way.
Get them out of my way.
Hey, get them out of my way.
Hey, get
them
out of my way.
Pajama People de Frank Zappa et sa technique de tapping particulière bien éloignée de Camardese, la technique dite de cornemuse bulgare. On a souvent dit de Zappa qu'il jouait de la guitare a cappella. L'instrument a souvent pris des airs anthropomorphes et pas seulement avec Frank Zappa. Nombreux sont ceux et celles qui, à tort ou à raison, l'ont pris pour une amante. Par exemple, il y a bien sûr Lucille de B.B. King, Blackie, la Stratocaster Ebène d'Eric Clapton et cette autre Lucy qui l'offre au guitariste des Beatles, George Harrison. Les Beatles, justement, bons garçons qui font gentiment pleurer leur guitare.
Surely be
La guitare des Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Pour finir cette émission sur une autre guitare transformée, je vous propose de nous quitter sur le son profond d'une guitare basse et ce joli poème. Sur ma guitare, je me fais mon film. Je tire sur la corde sensible, sur ses accords comme par hasard. Je vise ton cœur encore sur ma guitare. La corde sensible, Mathieu Chédid. Métamorphose, deuxième épisode, c'est fini. Demain, nous ouvrons une toute nouvelle porte, celle d'un label de musique qui a reconfiguré la place de la musique noire dans la société américaine Stax Records. À la réalisation cette semaine, la reine du riff Anne-Laure Chanel et aujourd'hui à la technique, le virtuose Nasser Moussaoui. Merci à la tempête de cerveau de Constant Arbonne, aux écuyages musicaux de François Merlin et Antoine Billoz à la discothèque de Radio France, à Vincent Frémaux à la bibliothèque musicale. Merci beaucoup à Roxane Poulain de nous avoir prêté sa voix ainsi qu'à Camille Cazot pour le site web. C'était La Série Musicale, une émission de Matteo Caranta que vous pouvez écouter et réécouter en podcast sur le site de France Culture. À demain.
C'est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux.